Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat et de points de vue. C'est votre 18-20, dernière semaine du mois de juillet. Dans une poignée de secondes, le journal à la une ce soir, le projet de loi sur le pass sanitaire et la suppression du licenciement prévu pour les salariés qui refusent la vaccination. Dans 20 minutes, on va parler du rapport du GIEC qui sera rendu le 9 août prochain. Près de 200 pays examinent depuis ce matin ce nouveau rapport. Agir vite contre le réchauffement climatique. On en parlera avec mon invité, le climatologue Jean Jouzel. 18h30, le débat des grandes voix. On va revenir longuement sur le sprint parlementaire du pass sanitaire. Les modifications surtout apportées. Vous réagissez bien sûr au 39-21. Je vous attends. Et puis à 19h15, votre club des idées. On a beaucoup parlé la semaine dernière de l'affaire Pegasus. On va s'intéresser aux cyberattaques du quotidien qui touchent nos hôpitaux, nos entreprises. Comment s'en prémunir? 39-21, vous êtes concerné, vous êtes chef d'entreprise. Vous prenez bien sûr la parole. Mais avant cela, toute l'info de ce lundi 26 juillet avec le journal présenté par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 18h.
Après d'âpres discussions ce week-end, le licenciement pour les salariés qui refuseront l'obligation de vaccination du fait de leur profession a été rejeté. La mesure a été remplacée dans le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire par une suspension de salaire, ce qui laisse un vide administratif.
5 ans après l'attaque terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen, un hommage a été rendu ce matin au père Jacques Hamel égorgé dans son église. Une cérémonie alors qu'un procès se tiendra dans quelques mois devant la cour d'assises spéciale de Paris.
La crise politique en Tunisie, situation très tendu aujourd'hui à Tunis au lendemain du limogeage du Premier ministre et de la suspension des activités du Parlement par le Président. Décryptage dans ce journal.
Et de 5 pour la France à Tokyo, 2 nouvelles médailles pour les Bleus, du bronze et de l'argent en escrime et en judo.
À la Bourse de Paris, le CAC 40 démarre la semaine sur une légère note positive, plus 0,15% à 6578 points.
La tendance météo, bonsoir Merlène Duré.
Bonsoir Thierry. Estival près de la Méditerranée, de la vallée du Rhône et de l'Occitanie, plus mitigé sur le reste du pays. Avec encore des averses et beaucoup de nuages sur une moitié nord-ouest où il fera un petit peu frais pour la saison.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire et l'obligation de vaccination des soignants est à présent entre les mains du Conseil constitutionnel. Les sages saisis par Jean Castex et par la gauche rendront leur décision le 5 août.
Oui, ils ont la tâche de vérifier la légalité des dispositions votées définitivement hier soir par le Parlement. Dans ce texte figure un nouveau point. Les personnels pour qui la vaccination devient obligatoire, comme les soignants, ne pourront pas être licenciés s'ils refusent de se faire vacciner. Mais Emmanuel Dutheil, ce compromis âprement négocié est loin de réjouir tout le monde.
Alors, sur le papier, le gouvernement a reculé. Il a accepté d'enlever la possibilité de licencier un salarié concerné par la vaccination obligatoire. Cette vaccination concerne les personnels des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD et des maisons de retraite, des sapeurs-pompiers, de certains militaires, ainsi que les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées, y compris à domicile. À la place, l'employeur pourra mettre le salarié sur un autre poste sans contact avec du public, ou si ce n'est pas possible, suspendre le contrat de travail et donc la rémunération du collaborateur. Mais voilà, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, estime que ce projet de loi est un recul au final pour les salariés par rapport à ce qui était prévu. La ministre du Travail met en avant que les salariés pourraient être privés de rémunération pendant une durée indéfinie. Et surtout, le licenciement n'est pas rendu impossible par cette suspension, souligne l'entourage de la ministre. La CPME, côté patronal cette fois, dénonce aussi ce compromis. Ça va créer, selon eux, un no man's land. En revanche, du côté de EFO, on estime que ce recul, c'est bien la moindre des choses. La menace de sanctions n'est dans tous les cas pas la meilleure façon de faire, estime le syndicat.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Du côté de la vaccination, la barre des 40 millions de primo-vaccinés a été franchie.
Oui, ce qui représente 60% de la population. L'Occitanie a accéléré de façon extrêmement impressionnante le rythme de ses vaccinations. Ce week-end, 22 000 personnes ont reçu une injection en 2 jours à Toulouse, soit environ 1000 personnes par heure.
Et pour en parler, nous sommes avec Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Week-end de vaccination record, notamment en tout cas à Toulouse, avec 22 000 injections. Comment vous expliquez ce regain ?
Écoutez, d'abord, je crois que tout le monde a compris que le variant était là, que les contaminations, malheureusement, se reproduisaient. C'est un peu un jour sans fin, finalement, ce qui se passe avec ce variant Delta, et que la seule façon de se protéger durablement, c'était d'être vacciné. Et je crois que tout le monde a envie d'être prêt pour que la rentrée prochaine se passe dans les meilleures conditions et ne pas avoir affaire à un hypothétique reconfinement.
Alors, il y a visiblement beaucoup d'adolescents et de jeunes qui viennent. Les 12-18 ans ne sont plus soumis à l'obligation du pass sanitaire depuis le vote des sénateurs. Est-ce que cela va, selon vous, faire baisser leur fréquentation ?
Non, moi je pense que la réalité c'est que la vaccination des 12-17 elle était extrêmement compliquée parce que ce sont les derniers qui sont rentrés dans la danse et que c'était légitime de le repousser à la rentrée prochaine et d'ailleurs même logistiquement puisqu'on pourra, je l'espère, vacciner dans les collèges et les lycées. Mais encore une fois, je pense, vous avez raison de le signaler, finalement il y a une grande poussée aussi de cette vaccination parmi les plus jeunes et il faut s'en féliciter. Je crois que le premier soir de l'annonce d'Emmanuel Macron, 65% avaient moins de 30 ans et que dès qu'on aura atteint, j'espère, un chiffre raisonnable de vacciner, on va avoir un passeport sanitaire efficace, y compris chez les jeunes qui vont en boîte de nuit en intérieur, parce qu'on sait malheureusement que c'est un lieu de contamination.
Benjamin Davido, 40 millions de Français vaccinés, dont 33 millions avec les deux doses. 50 millions fin août, c'est l'objectif. Réalisable pour vous ?
Oui, je pense que c'est complètement réalisable au rythme à laquelle on va. Il faut simplement pouvoir finalement rester dans ce côté attractif de la vaccination. D'abord parce qu'elle est efficace et d'abord ça doit motiver les Français et y compris les plus jeunes parce que on sait maintenant qu'un virus très contagieux qui fait plus de 20 000 cas par jour, il y a un risque y compris chez les plus jeunes de faire un Covid long et on estime que c'est 5 à 10% des patients. C'est une étude anglaise qui a montré ça de façon récente. Ça reste également un problème de santé publique pour les jeunes et que encore une fois, avec l'ouverture des restaurants conditionnés et finalement de tout ce qui fait qu'on a envie de reprendre la vie d'avant, je pense qu'on va garder cette dynamique et je le souhaite le plus tôt possible qu'on se débarrasse de ce virus.
L'infectiologue Benjamin Davido de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, merci à vous.
Je t'en prie.
Et alors que nous traversons la quatrième vague, les universités préparent la rentrée. Beaucoup d'incertitudes après une année difficile pour les étudiants. Et à ce stade, Virginie Riva, les facultés se préparent encore au scénario d'une rentrée en présentiel, mais sous certaines conditions.
Oui, le mot d'ordre à ce stade, c'est 100% présentiel en septembre. La ministre de l'Enseignement supérieur, comme les présidents d'université, veulent un retour de tous les étudiants sur les campus. Mais Frédéric Vidal tient à mettre en garde, les étudiants doivent impérativement se faire vacciner.
Si à la rentrée, le fait qu'ils soient vaccinés nous permettra de maintenir du 100% présentiel dans les établissements. S'ils ne sont pas suffisamment vaccinés, à ce moment-là, on prendra les mesures nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sont ces mesures. Ce n'est pas une menace, c'est juste la réalité.
Selon les études de Santé publique France, 71% des étudiants âgés de 18 à 24 ans ont commencé leur processus vaccinal ou font part de leur intention de se faire vacciner. Il faudrait que ça soit du 100%, ajoute la ministre, et surtout que cette vaccination soit finalisée avant la reprise pour qu'il n'y ait pas de contamination à grande échelle. Des barnums seront néanmoins installés un peu partout à la rentrée pour permettre aux étudiants de terminer leur vaccination.
Virginie Riva.
Emmanuel Macron poursuit son déplacement en Polynésie.
Le président était au Marquis ce matin, le premier chef d'État français à s'y rendre. Il a annoncé son soutien à la candidature de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Emmanuel Macron qui a également salué sur Twitter la mémoire du père Jacques Hamel, assassiné et égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray près de Rouen il y a 5 ans.
Un hommage lui a été rendu ce matin pour honorer l'homme d'église et le citoyen engagé en présence d'élus et de fidèles, mais également du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.
Le souvenir de Jacques Hamel est sans doute un souvenir de pardon. Il est certainement un souvenir d'un citoyen engagé que vous regrettez, un souvenir d'un frère, d'un oncle, de quelqu'un que l'on connaissait, qui nous touche. Il est pour la France le souvenir d'un homme qui a subi la barbarie et pour lequel nous devons nous battre pour que le moins d'autres hommes possible puissent connaître le même sort. Et un regret, bien sûr, de ne pas avoir su le protéger, comme la République doit protéger tous ses enfants.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur à Saint-Étienne-du-Rouvray ce matin.
Et les deux djihadistes qui ont assassiné le père Hamel ont été abattus par la police lors de l'attaque. Mais un procès aura lieu le 14 février prochain. 4 personnes seront jugées, devant la cour d'assises spéciale de Paris, Marion Dubreuil.
Oui, même s'ils ne seront que trois hein, dans le box des accusés, Rachid Kassim, qui est soupçonné d'être l'instigateur de l'attentat depuis l'étranger, est bien sous le coup d'un mandat d'arrêt, mais il aurait été tué il y a 4 ans en zone irako-syrienne. Les trois autres accusés seront jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Tous étaient en lien avec les deux terroristes dans les jours qui ont précédé l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils gravitaient dans la même djihadosphère 2.0, abonnés aux mêmes chaînes pro-djihad de l'application cryptée Telegram. Il y a Khalil, 35 ans, le cousin d'Abdelmalik Petitjean, avec lequel il projetait un départ en Syrie. Jean-Philippe Steven, 26 ans, malgré son jeune âge, on retrouve son nom dans plusieurs dossiers de terrorisme considérés comme un leader de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Il dispensait ses conseils via Telegram à Abdelmalik Petitjean. Et enfin, Yassine, 28 ans, lui aussi radicalisé sur Internet. 2 jours avant l'attentat, il passait la nuit chez Adel Kermiche, mais il a toujours nié avoir été au courant de son projet terroriste.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Jean Castex annonce ce soir une hausse du budget du ministère de l'Intérieur de plus de 900 millions d'euros pour l'année prochaine.
Le Premier ministre qui affirme que la promesse d'Emmanuel Macron de créer près de 10 000 postes de policiers et gendarmes au cours de son quinquennat serait tenue. 885 emplois supplémentaires verront le jour l'année prochaine.
Le feu dans l'Aude sur la montagne d'Alaric est fixé. 850 hectares ont été ravagés.
300 pompiers maintiennent toutefois un important dispositif de surveillance pour éviter que cet incendie, le plus important depuis le début de l'été, ne reparte.
Gros plan à présent sur la crise politique en Tunisie.
Le président a limogé hier soir le Premier ministre Hichem Mechichi, a gelé les activités du Parlement après une journée de manifestation, Jean-Jacques Herry. Et Kaïs Saïed a finalement décidé de reprendre la main sur la vie politique du pays.
Oui, et dernière preuve de cela, on vient d'apprendre dans l'après-midi que le président Kaïs Saïed avait limogé le ministre de la Défense. Au cours de la journée, la tension est montée encore d'un cran avec des affrontements très tôt ce matin devant le Parlement. D'un côté, les partisans du président Saïed qui salue les décisions prises et de l'autre les soutiens du parti Ennahda, le principal parti parlementaire, qui eux dénoncent un coup d'État. Les deux camps se sont affrontés à coups de jets de pierre et de bouteilles. En fait, ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, c'est l'aboutissement d'un bras de fer entre le président Saïed et Rached Ranouchi, le chef du parti Ennahda, qui est aussi président de l'Assemblée. Cette guerre politique, elle a tout grippé, l'organisation des pouvoirs publics comme le fonctionnement des institutions. Résultat, une paralysie insupportable pour les Tunisiens dans un contexte sanitaire très inquiétant. Depuis le début du mois de juillet, le nombre de malades du Covid ne cesse d'augmenter. On est en plein pic épidémique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 18 000 morts pour 12 millions d'habitants. C'est tout simplement l'un des pires taux de mortalité officiels au monde. Bref, le Covid a donc servi de catalyseur à la crise politique et sociale qui couvait. Et tout cela vient mettre encore un peu plus à l'épreuve une jeune démocratie tunisienne déjà bien fragile.
Jean-Jacques Herry.
On s'intéresse à présent aux Jeux Olympiques de Tokyo où la France a désormais 5 médailles au compteur.
Oui, 2 récompenses de plus pour les Bleus en escrime et en judo, Simon Rubin.
Exactement, et commençons par la première médaille de la journée en judo avec Sarah Léonie Sizik. Elle a 23 ans. Ce sont ses premiers Jeux Olympiques et donc une médaille d'argent pour elle. Alors, médaille obtenue à l'issue d'une finale frustrante car la Française a été disqualifiée au bout d'un peu plus d'une minute de combat. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a fait un geste dangereux, mais dangereux pas pour l'adversaire, dangereux pour elle-même. En attaquant sa rivale, en fait, elle a plongé, sa tête s'est retrouvée contre le tatami. Très dangereux pour la nuque, très dangereux pour les cervicales et elle a été sanctionnée par les juges. C'est dans le règlement, elle n'a pas pu continuer son combat. La Française a donc savouré une médaille d'argent qu'elle aurait aimé un peu plus dorée.
Je viens pas chercher la médaille d'or, mais toute médaille est à prendre et belle. Toutes les médailles sont belles, donc oui, c'est sûr que après je serai contente, je le sais. Mais là, à chaud comme ça, j'avoue que je l'ai un peu en travers de la gorge.
Et puis elle aura 26 ans à Paris 2024. Hein, donc là, le rendez-vous, il est pris pour les prochains Jeux. Autre médaille en bronze pour l'escrimeuse Manon Brunet. Médaille de bronze pour la 4e mondiale qui a réalisé un magnifique tournoi. C'est donc un succès qui offre à la France sa 5e médaille. La France 10e au tableau des médailles ce soir.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Allez, on termine avec le festival In d'Avignon qui s'est achevé hier soir. Le off, lui, continue jusqu'au 31 juillet.
Oui, c'était une édition marquée par des restrictions sanitaires qui, malgré tout, a attiré beaucoup de monde. Son directeur, Olivier Bis, a lui-même une édition héroïque, Angèle Châtelier.
héroïque, oui, car compliqué à mettre en œuvre à cause des contraintes sanitaires. Par exemple, jusque-là, la pièce maîtresse de cette 75e édition, La Cerisée de Thiago Rodriguez, était la seule à être sous contrôle d'un pass sanitaire, car elle se jouait devant 2000 personnes. Mais depuis le 21 juillet, il a fallu adapter ça à toutes les pièces, le pass sanitaire étant désormais obligatoire pour tous les lieux recevant plus de 50 spectateurs. Pour autant, Olivier Py est fier d'avoir réussi à faire revivre Avignon.
C'était extrêmement émouvant. Comme vous le savez, le festival s'ouvre avec les célèbres trompettes. Dès qu'elles ont résonné, le premier soir, le public a unanimement applaudi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on applaudissait le festival, la renaissance du festival et peut-être, au-delà du festival, l'espoir de retourner très vite à une vie normale.
Plus de 100 000 spectateurs ont acheté un billet cette année, presque autant qu'en 2019, sans compter les 20 000 entrées gratuites. Le festival Off, lui, celui des théâtres privés, continue jusqu'au 31 juillet, non sans contrainte également. Dès le départ, déjà, moins de spectacles que d'habitude étaient programmés. Un peu plus de 1000, et selon les premiers chiffres de fréquentation, il a perdu 50% de ses spectateurs par rapport à 2019.
Angèle Châtelier.
Merci beaucoup Sophie Tusson, on vous retrouve bien sûr à 18h30 pour l'essentiel de l'info. La météo à présent avec vous Marlène Duré. Alors du soleil vers la Méditerranée, ailleurs c'est pas gagné. Hein.
Oui, du soleil en Méditerranée, sur la partie est de l'Occitanie, en vallée du Rhône. Un soleil peut-être un peu plus contesté en Corse qui va avoir passé quelques nuages. Mais bon, voilà, toute la journée on est pratiquement tranquille. Belle matinée sur les Pyrénées. Malheureusement le ciel va devenir nuageux au fil de la journée, un petit peu comme aujourd'hui. Avec une averse sur le relief, averse qu'on va retrouver aussi d'ailleurs sur le relief des Alpes. En particulier dans le sud, il va pleuvoir jusque dans l'arrière-pays niçois. Un temps qui va contraster en fait avec le cordon nuageux assez compact et pluvieux qu'on va retrouver des Hauts-de-France et de la Champagne-Ardenne au Pays de la Loire et aux Charentes en passant par l'ouest de la Bourgogne, une partie de la région centre, l'Île-de-France, la Normandie, une partie de la Bretagne. Dans toutes ces régions, c'est bien couvert demain matin avec des averses. Quelques éclaircies vont percer en cours d'après-midi, pas grand-chose, mais toujours des averses et c'est important. Je regardais un communiqué de Météo France qui nous disait qu'on vivait le sixième mois de juillet le plus pluvieux depuis 1959. Donc vous voyez, voilà. Et puis sur le reste, entre les deux zones, si vous voulez, entre la Méditerranée et puis ce cordon nuageux, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies. Du côté des températures, ça baisse au nord-ouest. Ailleurs, ça ne bouge pas vraiment. On attend un minimum de 19 à Boulogne-sur-Mer, 22 à Rennes, à l'Île-Dieu, à Tours. Il fera 23 dans l'Allier, 23 à Paris aussi, on perd un petit degré par rapport à hier. Nous aurons 28 à Lyon et Toulouse, 29 à Grenoble, 31 à Valence, Avignon, 33 degrés. C'est la maximale.
Merci Marlène, à tout à l'heure.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, je reçois Jean Jouzel, climatologue et ancien vice-président du GIEC. Le groupe scientifique doit rendre son nouveau rapport le 9 août prochain. Près de 200 pays l'examinent depuis ce matin. Comment agir vite contre le réchauffement climatique? Je lui pose la question dans deux minutes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h18, il est climatologue, membre de l'Académie des sciences, vice-président du groupe scientifique du GIEC entre 2002 et 2015. Bonsoir Jean Jouzel.
Bonsoir Thierry Dagiral.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Le GIEC va rendre, je disais, son rapport le 9 août prochain. 200 pays, près de 200 pays l'examinent depuis ce matin. Il va être ce rapport très attendu, sans doute très alarmiste. Hein.
Il sera très attendu certainement parce que le précédent rapport, il s'agit ici d'un rapport justement du groupe scientifique dont vous l'avez dit, j'étais vice-président et des vice-présidents pendant une dizaine d'années. Donc il s'agit bien des aspects scientifiques du réchauffement climatique, disons les conséquences de ce réchauffement, disons sur les populations, sur la nature, seront examinées ainsi que l'adaptation ou le... qui sont les mesures à prendre pour lutter contre le réchauffement climatique dans des rapports ultérieurs en début d'année prochaine. Et ça sera conclu par un rapport de synthèse. Donc ce premier rapport, et ce premier volet du sixième rapport du GIEC est très important. Et donc je voudrais quand même saluer le rôle de Valérie Masson-Delmotte, ma collègue, qui est coprésidente de ce groupe de travail avec un collègue chinois. Donc c'est beaucoup de travail pendant ces 15 jours pour les personnes qui sont impliquées. Alors est-ce qu'il sera alarmiste? Moi je préfère ne pas me prononcer par rapport au contenu du rapport du GIEC. Ce qu'on voit quand même, ce qu'on peut dire par rapport à le précédent rapport, il y a 2013... Ouais. Eh bien, nous sommes vraiment dans un contexte de réchauffement climatique. Les six dernières années ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. L'élévation du niveau de la mer, c'est maintenant près de 4 mm par an, alors que c'était entre 1 et 2 mm au XXe siècle. Donc les choses s'accélèrent, mais c'est ce qui était prévu dans les précédents rapports du GIEC. Donc les choses s'accélèrent, mais disons, ce que l'on vit actuellement, c'est vraiment ce qui était anticipé, en tout cas dans les grandes lignes, alors peut-être pas dans les détails, mais dans les grandes lignes, dans les précédents rapports du GIEC, et c'est pour cela qu'il faut accorder de la crédibilité et de l'importance à ce qui va sortir dans 15 jours de ce sixième rapport du GIEC, de ce premier volet.
Jean Jouzel, des pluies diluviennes, des inondations en Chine, en Europe, des températures jamais connues au Canada, des centaines de morts. Les phénomènes météo extrêmes se multiplient partout sur la planète, c'est ça. C'est clairement dit, c'est clairement à cause du réchauffement climatique.
Oui, alors c'est, disons, l'attribution n'est pas de la même, disons, qualité pour ce qui concerne, disons, par exemple, les vagues de chaleur. C'est indiscutable, les vagues de chaleur à répétition et ces records qui sont surpassés et au-delà de ce que les climatologues envisageaient, d'ailleurs, dans le cas du Canada. C'est assez directement attribuable au réchauffement climatique lié lui-même aux activités humaines. On comprend bien là que, disons, un réchauffement climatique moyen qui est là, qui est très prononcé déjà, eh bien, se traduit par des records de chaleur à répétition. Ça sera toujours, à mesure que le réchauffement climatique se met en place, ces records de chaleur se seront battus une fois dans un endroit, l'autre année dans d'autres endroits. Il y a deux ans, c'était en France, près de 47 degrés. Voilà. Donc ça, c'est on peut attribuer vraiment ces records de chaleur aux activités humaines, enfin au réchauffement climatique moyen lui-même lié aux activités humaines. Pour les précipitations, c'est un peu plus, il faut un peu plus de recul parce que, il faut d'abord avoir des données. Pour les précipitations, c'est la question est de savoir si un événement tel que celui qui s'est produit en Allemagne, en Allemagne, en Belgique la semaine dernière, quel est son temps de retour? Est-ce qu'il y a eu ce type de cette intensité il y a une centaine d'années ou quelques centaines d'années? Donc, et est-ce que ce rythme de retour, ce temps de retour a tendance à diminuer? C'est ce dont on a le sentiment, mais on comprend bien qu'il faut un peu de recul et mes collègues spécialistes des événements extrêmes sont effectivement en train de regarder de regarder si ce type d'événement, si cet événement peut ou non être attribué aux activités humaines. Ça prend un peu de temps. Plus pour les précipitations que pour les records de chaleur, c'est ce que je veux simplement dire.
Jean Jouzel, pour la première fois, on nomme les choses, j'ai envie de dire. On attribue la famine à Madagascar au réchauffement climatique. On a tous vu ces enfants en train de se nourrir d'insectes et de cuir bouilli. On n'en parlait pas dans le temps.
Oui, alors il y a effectivement ce phénomène d'intensification des sécheresses et on sait que les sécheresses, eh bien, c'est vraiment synonyme de moins de rendement, ce que vous cultivez, eh bien il y a généralement moins de rendement dans les périodes de sécheresse. Que la nature a besoin d'eau. Alors quand il y en a trop, c'est pas mieux, mais les inondations sont aussi des problèmes, mais les sécheresses à répétition sont aussi une manifestation. Disons, c'est malheureusement ce à quoi on s'attend dans un contexte de réchauffement climatique et dans des pays où aussi la population augmente. La population en Afrique, mais c'est le cas aussi pour Madagascar, bien sûr, a beaucoup augmenté. Eh bien, c'est vrai que les événements climatiques, ça devient de plus en plus tendu à mesure que, les événements climatiques qui deviennent de plus en plus extrêmes dans un pays où la population augmente, c'est vraiment la conjonction de deux dimension très importante, bien sûr, c'est important qu'un pays soit capable de nourrir sa population, et ce ne semble pas être le cas actuellement pour Madagascar, et c'est un véritable problème, et c'est un risque vraiment. L'insécurité alimentaire, c'est un des risques principaux du réchauffement climatique en Afrique, et on voit bien que derrière cette idée d'insécurité alimentaire, il y a évidemment les migrations, les gens qui ne peuvent plus se nourrir sur les territoires sur lesquels ils vivent, ou qui ont des problèmes avec justement des inondations à répétition, des sécheresses à répétition, c'est à l'origine de migrations d'origine climatique et ça risque aussi de s'intensifier et d'avoir des flux migratoires plus importants qu'actuellement, en particulier de l'Afrique vers l'Europe, parce que c'est l'Afrique qui sera touchée de plein fouet par ce réchauffement climatique, qui sont les régions subsahéliennes. Donc oui, ce sont de véritables problèmes. Ça ne touche pas simplement que les précipitations, les températures, mais les populations sont complètement affectées et la nature autour de nous. Il faut aussi savoir la regarder. La nature est très fragile par rapport au réchauffement climatique. On l'a vu évidemment à Layton, ce feu qui détruit tout, mais aussi la biodiversité souffre du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité. Donc la nature souffre, on est un peu égoïste en regardant, bien sûr, c'est important de regarder évidemment cette famine, hein. Disons à Madagascar, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut aussi regarder autour de nous tous ceux qui souffrent, la nature souffre de ce réchauffement climatique.
Jean Jouzel, certaines projections annoncent des températures atteignant 50 degrés chez nous, dans l'Hexagone, d'ici à 2050. Est-ce que d'abord c'est une possibilité? Et ensuite, que peut-on faire? Ça veut dire qu'il faut complètement repenser notre façon de vivre, de construire, d'aménager nos territoires?
Oui, alors, la réponse, oui, il y a effectivement des projections. Il y a eu un article de collègues de Météo France, disons Bador en particulier, disant qu'on parle de records au-delà de 50 degrés en France, mais c'est plutôt pour l'après 2050. Alors, évidemment, ça pose la question, ce qu'ont vécu les près de 50 degrés au Canada, des latitudes un peu similaires aux nôtres, ça pose la question de... Mais ça, peut-être que ça pourrait arriver plus tôt, mais on parle de température autour de 50 degrés en France dans un contexte de réchauffement climatique qui atteindrait de l'ordre de 3 degrés, ce qui est possible malheureusement parce que ce sont les trajectoires sur lesquelles nous sommes collectivement. Il faut bien voir que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et en gros tout le monde le dit, hein, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il y a 130 pays qui affichent désormais neutralité carbone à horizon 2050. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir des chances de limiter le réchauffement climatique.
Mais où ça coince alors?
Où ça coince, c'est que nous n'en prenons pas le chemin. Disons, par exemple, soyons concrets, avoir des chances d'atteindre cette neutralité carbone en 2050, mais au-delà de l'affichage, eh bien, il faudrait diminuer de 7% à l'échelle planétaire nos émissions chaque année d'ici 2030, et bien sûr poursuivre par la suite. Mais c'est pas ce qu'on fait, puisque les émissions sont reparties à la hausse à la sortie de la pandémie. On voit bien que, disons, l'Agence internationale de l'énergie vient de dire clairement que les émissions... Il suffit de regarder l'utilisation des combustibles fossiles, hein, qui joue pour près de 80% des émissions. Eh bien, on sait que les émissions vont repartir à la hausse, au moins jusqu'en 2023 et probablement au-delà. Donc, d'un côté, on a effectivement des discours, des objectifs auxquels j'adhère complètement. Et de l'autre, une réalité qui est à l'opposé des objectifs, qui va complètement à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, on le sait, il aurait fallu effectivement que le monde d'après ne soit pas comme le monde d'avant, et le monde d'après est comme le monde d'avant. C'est bien là où nous en sommes, c'est-à-dire qu'on repart sur même... Bien sûr, il y a des discours, il y a des changements, il y a une loi en France qui est loin du compte, mais on repart quand même sur des trajectoires plutôt... disons comme celle que nous avions dans les années de 2010. Donc ce n'est pas ce qu'il faut faire, et tout le monde sait ce qu'il faut faire, et tout le monde l'a inscrit dans ses objectifs, mais personne ne le réalise, personne ne le met vraiment en œuvre pour le moment.
Et vous tirez ce soir une fois encore la sonnette d'alarme sur l'antenne d'Europe 1. Un grand merci à vous, Jean Jouzel, membre...
Thierry Laguéral, merci beaucoup.
Membre de l'Académie des sciences et climatologue ce soir sur Europe 1. Un grand merci.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Dans un instant, le rappel info, puis les grandes voix. On parle du pass sanitaire, loi adoptée, vous le savez, au Parlement. Beaucoup de changements et encore des zones d'ombre. Vous prenez la parole, vous êtes les bienvenus. 39-21, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Et à 18h30, l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
La barre des 40 millions de primo-vaccinés franchis, ce qui représente 60% de la population. À Toulouse, 22 000 vaccinations ce week-end au vaccinodrome, un rythme de 1000 injections par heure. Le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire est à présent entre les mains du Conseil constitutionnel. Les sages doivent vérifier la légalité des dispositions votées définitivement hier soir. Ils rendront leur décision le 5 août. L'hommage au père Jacques Hamel, égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 5 ans. Sa mémoire a été saluée aujourd'hui au cours d'une cérémonie en présence de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. En Tunisie, la crise politique. Après le Premier ministre, c'est le ministre de la Défense qui est limogé aujourd'hui. Hier soir, le président Kais Saied a également gelé les activités du Parlement. Parlement barricadé par l'armée où des heurts ont éclaté aujourd'hui. Nouvelle médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Manon Sabré décroche le bronze en sabre. Et en judo, Sarah Léonie Sizik remporte l'argent dans la catégorie des moins de 57 kilos, ce qui fait un total de 5 médailles pour les Bleus.
Merci Sophie Tussaud, nouvelle édition complète à 19h. Alors la météo, Marlène Duré, le temps de ce mardi estival dans le sud-est, mitigé ailleurs.
Oui, il va faire beau depuis l'est de l'Occitanie et la vallée du Rhône jusqu'en Méditerranée. Le soleil matinal sur les Pyrénées va malheureusement céder la place aux nuages en cours de journée, où une averse ne manquera pas d'arroser le relief. Des averses se déclencheront également sur les Alpes, hein, surtout dans le sud, jusque dans l'arrière-pays niçois, et puis dégradé nuageux en allant vers le nord-ouest, on va dire à l'ouest d'une ligne Nancy-Bordeaux, hein, un temps nuageux et pluvieux par intermittence encore. Quant aux températures, elles vont baisser au nord-ouest, fatalement sous les nuages et les averses, ailleurs pas vraiment de changement. Les maximales s'échelonneront donc entre 19 et 25 degrés sur la moitié nord et en Nouvelle-Aquitaine. Et puis elles atteindront 27 à 32 en direction du sud-est, même jusqu'à 33 en vallée du Rhône.
Merci Marlène, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix de ce lundi soir avec Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thierry.
Et Raphaël Stainville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Thierry.
Soyez tous deux les bienvenus, merci à vous deux. Et puis bien sûr, on attend vos réactions, il y en a beaucoup déjà, au 39-21. Après des débats vifs et prolongés tard dans la nuit, les parlementaires ont donc définitivement adopté le projet de loi contenant les nouvelles mesures sanitaires. Le texte voté est le fruit de négociations d'une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs. Le texte doit encore franchir une dernière étape, celui du Conseil constitutionnel qui a annoncé avoir été saisi et qui promet de rendre sa décision le 5 août. Raphaël Stainville, le gouvernement ne veut faire aucune erreur justement en convoquant et en demandant le contrôle du Conseil constitutionnel.
Alors oui, en apparence c'est comme ça, mais en fait
en apparence, mais derrière.
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait il y a peu de risques. C'est-à-dire qu'en fait on le voit ces derniers mois et ces dernières années, comment le Conseil constitutionnel et même dans une autre mesure le Conseil d'État, dans 90% des cas, vient conforter.
C'est quoi ? C'est que de la com, ça veut dire ?
Oui, je pense que c'est d'abord de la com. Je pense que c'est d'abord de la com.
Et irréprochable.
Non, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Conseil constitutionnel aujourd'hui soit ait le temps suffisant pour arbitrer du bien fondé de la constitutionnalité des lois qui sont proposées, dans la mesure où on leur demande quand même de rendre un avis en urgence. Mmh. Et donc, voilà, il faut voir que les sages qui siègent délèguent à un certain nombre de personnes qui sont tributaires quand même très, très largement des pouvoirs politiques.
Alexandre Malafaï, c'est que de la com' alors ? C'est juste pour avoir le verdict finalement des sages ?
Ça permet déjà au gouvernement d'apprendre l'initiative de la saisine du Conseil constitutionnel, sans quoi de toute façon des formations politiques l'auraient faite à sa place.
La gauche,
donc là, ça leur permet de garder la main. C'est une bonne chose pour eux. Ouais. Après, je pense que le Conseil constitutionnel va quand même regarder un certain nombre de points qui sont notamment liés à la rupture d'égalité entre les citoyens, en tout cas pendant la phase transitoire. Après, peut-être qu'ils vont valider le tout dans le cadre d'une mesure d'urgence et dans la mesure où il y a une date d'échéance, a priori fixée au 15 novembre, on verra bien. Mais dans la mesure où on ne peut pas garantir que 100% des Français seront vaccinés parce qu'on n'a ni le temps, ni les moyens, ni les doses à échéance 5 août ou à échéance d'application de la loi 5, 6, 7 août, eh bien, il y a une rupture d'égalité pendant un temps déterminé. Donc il est possible que le Conseil constitutionnel valide, mais demande au gouvernement de redonner du temps au temps pour qu'à un moment donné, voilà, on ne piège pas les Français, ce qui là pour le coup serait quand même pas juste, parce que si on avait vraiment voulu les piéger ou exercer ce chantage social de manière ferme et définitive, il aurait fallu se donner 3 mois en mettant une échéance au 15 septembre, ce qui finira peut-être par arriver.
Ouais. Alors revenons sur ce qui a été voté la nuit dernière, pas de licenciement possible pour les employés d'établissements recevant du public, restaurants, bars, etc., ne disposant pas du pass. Finalement, ce sera une suspension de salaire, des sanctions administratives plutôt que pénales pour les patrons. Isolement en cas de test positif sur le même régime qu'un arrêt maladie, délai rallongé pour les mineurs. Il est donc plus souple que prévu cet élargissement du pass sanitaire, Raphaël Stainville.
Mais vous voyez qu'encore une fois, c'est quand même très largement une question de communication. C'est-à-dire que dans les faits, pour les Français, cela revient au même. C'est-à-dire que la menace est telle, c'est-à-dire que pour un Français de pouvoir supporter une suspension de salaire pendant 2 mois, c'est énorme. Donc, entre un licenciement et... c'est la même chose. Donc,
c'est
en fait, c'est une manière de forcer la main. Alors, c'est une incitation extrêmement brutale pour que les Français souscrivent à cette vaccination. Mais c'est-à-dire qu'il y a des variations, il y a des nuances. On a l'impression qu'il y a un assouplissement Dans les faits, c'est très exactement la même chose. Voyez par exemple cette histoire avec les centres commerciaux, laisser la liberté à l'appréciation des préfets. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir regagné une certaine souplesse, mais les préfets ont encore la possibilité
Et on le voit ce soir en Haute-Corse, par exemple, où le préfet, en effet, prend des dispositions bien plus dures que celles annoncées nationalement. Mais ça veut dire quoi? Que finalement, Alexandre Malafaye, derrière ces débats, c'est encore que de la com', et finalement, c'était prévu par le gouvernement. Finalement, il y a peu de marge.
Alors franchement, si c'était prévu, j'allais dire, c'est vraiment crétin. Parce que je ne vois pas l'intérêt de chercher l'ultra-provocation sur un sujet qui n'est pas anodin.
Pour dire qu'il y a eu débat parlementaire.
Le débat parlementaire, on aurait pu quand même éviter l'ultra-provocation que consistait la possibilité de recours au licenciement. On aurait pu éviter les sommes astronomiques qui avaient été mises en avant pour sanctionner les chefs d'entreprise, 45 000 euros, 75 000 euros, un an de prison avec sursis. Enfin voilà, des sommes également astronomiques pour les particuliers qui se seraient fait prendre la main dans le sac d'une fraude quelconque. Voilà. Ouais. On a vraiment provoqué la rue, en fait. Et quelque part, je pense que, je ne sais pas si c'est le débat parlementaire qui a permis au bout du compte d'améliorer le texte, ou si c'est aussi la peur quand même qu'à un moment donné, on a réouvert la boîte de Pandore avec les manifestations des deux dernières semaines qui ne vont pas s'arrêter là. Parce que philosophiquement parlant, malgré tout, il y a un débat sur lequel on peut ne pas trancher ce soir, je crois, mais en tout cas, il y a un débat.
Alors, moi, si je peux me permettre, Alexandre, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, il faut noter l'efficacité finalement de ces mesures brutales annoncées le 12 juillet par Emmanuel Macron.
Parce que les gens se sont vaccinés.
On se souvient, 3 millions d'inscriptions sur Doctolib dans les 24 heures.
Et encore
heures,
ce week-end, ce qu'on racontait dans le journal des 18 heures.
Ça continue. Il y a une deuxième chose que je trouve quand même très intéressant de noter, d'observer, et même qui mérite d'être questionnée, c'est la question de la proportionnalité de ces mesures, de l'imposition du pass sanitaire. Quand on regarde les chiffres du nombre de cas, mais qui ne sont pas forcément des malades, loin de là, du nombre de morts, on voit qu'on est dans des zones très très basses. Alors pour le nombre de cas, ça peut être encore impressionnant, puisqu'on a plus de 20 000 aujourd'hui, mais ce ne sont pas des malades. En revanche, le nombre de cas, je crois que c'était hier, c'était 29 morts. Sur la moyenne de la semaine, c'était 19. Donc, on est sur les mêmes moyennes qu'il y a un an. Pourquoi aujourd'hui imposer ce pass sanitaire, si ce n'est pour obliger, contraindre les Français à se vacciner?
Si je peux ajouter un mot, Alexandre. Je pense parce qu'on est pris dans une espèce de fuite en avant. C'est un peu le quoi qu'il en coûte pour ne pas perdre la face. C'est triste à dire, mais depuis le départ, le gouvernement n'a pas bien géré la crise et donc a toujours essayé de se rattraper sans jamais vouloir reconnaître la moindre faute ou la moindre erreur. Le seul qui, à un moment donné, dit on s'est trompé sur le masque, c'était Édouard Philippe en audition, mais il n'était plus Premier ministre. Et on est dans cette espèce de course invraisemblable. Et donc, on ne saura pas à la fin, en fait, si finalement le virus est passé avec un pic épidémique, ce qui est en train de se produire à Londres, parce que le virus, finalement, il est moins dangereux. Enfin, en Angleterre, apparemment, ça baisse depuis quelques jours. Voilà, est-ce qu'au bout du compte, il a fait peu de dégâts parce qu'il est moins dangereux? Est-ce qu'il a fait moins de dégâts parce qu'on est plus vacciné? En tout cas, on aura un problème d'analyse. Et on voit bien que le problème d'analyse profitera au gouvernement qui dira, au bout du compte, voilà, c'est grâce à notre stratégie, alors que finalement, voilà, les choses se seraient peut-être, je ne dis pas passées naturellement, qu'il ne faut pas rien faire, hein, loin s'en faut, il faut protéger notamment les plus vulnérables. Mais entre protéger les plus vulnérables, avoir une bonne stratégie, bien ciblée, et puis tout d'un coup, cette espèce de bombe atomique, si je puis dire, du pass sanitaire et de la vaccination quasi obligatoire, il y a peut-être là encore juste un entre-deux, une juste courbe à respecter. Et puis surtout, pour respecter le principe démocratique fondamental, on en parlait vendredi, c'est celui du consentement. Il faut qu'à un moment donné, quand même, la population accepte.
Mais on est le 26 juillet, ça fait des heures et des heures qu'on parle de ce pass sanitaire. Pourquoi finalement n'être pas passé, parce que l'objectif c'est finalement de vacciner un maximum de Français, pourquoi ne pas être passé directement à la vaccination obligatoire pour éviter tous les fantasmes qu'il y a autour, Alexandre Malafaye?
Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui le code de Nuremberg vous l'interdit complètement. Vous ne pouvez pas forcer une population à se faire vacciner.
Mais on en est là, dans les faits.
Pardon ?
On en est là.
Ah oui, mais en fait, c'est bien sûr, mais c'est un habillage. Là encore, pour le coup, c'est une vraie communication, stratégie de communication bien ficelée. Ouais. Mais c'est le code de Nuremberg. Tant qu'on est en phase expérimentale, il ne peut pas y avoir de décision arbitraire. Voilà. Et ça, il faut l'accepter une fois pour toutes. Ça fait partie des traités sur lesquels on est quand même un peu soumis. Voilà. Et regardez quand même, accessoirement, ce qui est quand même vertigineux, il faut lire, les Français, j'espère, l'ont fait, les petites lignes du contrat de vaccination qui est passé avec l'État, qui est un contrat qui décharge totalement l'État de toutes les conséquences et totalement les laboratoires de toutes les conséquences. C'est, alors, dans un contrat, il y a des droits et devoirs. Il n'y a aucun droit et aucun devoir pour celui qui vous vaccine de force ou de quasi-force. Ça, c'est un vrai sujet aussi.
Raphaël Stainville, Alexandre Malafaye en parlait il y a quelques minutes. En effet, 166 000 Français encore dans les rues ce week-end contre la vaccination, contre le projet de loi d'extension de passe sanitaire. On est fin juillet, c'était 112 000 le week-end d'avant. Il y a quand même ce rassemblement qui est là bien présent.
Oui, alors...
L'exécutif est inquiété par ça ou pas ?
Je pense que ça a pesé, notamment dans les différents accommodements qui ont pu surgir dans les discussions parlementaires. Ouais. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que cette mobilisation, elle est salutaire. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens, il y a quelques jours, c'est Olivier Véran qui, répondant à une communication d'une infirmière sur TikTok, parlait de propagande. Quand vous avez 99% de l'univers médiatique qui reprend exactement les mêmes codes, les mêmes formules que le gouvernement, et on voit qu'il y a un hiatus entre une partie de la population qui ne se retrouve pas dans ce discours, qui a des doutes, qui n'est pas fondamentalement opposé à la vaccination, mais qui a besoin par ailleurs d'être réassuré. Et on en discutait il y a 30 secondes. Ces laboratoires pharmaceutiques, ce ne sont pas des sociétés vertueuses. Il y a un certain nombre de procès qui ont cours depuis des années. Et donc, c'est normal que les Français s'interrogent. C'est normal que les Français ne veuillent pas se faire imposer de manière autoritaire cette vaccination et qu'ils descendent dans la rue pour manifester leur défense de leurs libertés individuelles.
39-21, on donne la parole à nos auditeurs. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir à toute l'équipe.
Vous êtes kinésithérapeute, vous nous appelez de Lille.
Oui, tout à fait.
On vous écoute.
Donc en fait, mon avis est le suivant, c'est-à-dire il ne faut pas oublier d'où on vient. Il y a encore 18 mois, on était tous enfermés chez soi, on ne pouvait pas sortir. Donc je pense que si on nous avait proposé à ce moment-là, vous pouvez sortir si vous êtes vacciné, je pense que beaucoup l'auraient fait. Deuxièmement, je pense également que le pass sanitaire, c'est comme le permis de conduire, c'est-à-dire que libre à chacun d'avoir une voiture, d'avoir son permis. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, qui conduisent sans permis, mais ça les regarde, c'est leur morale. Et troisièmement, je dirais que le pass sanitaire, c'est vraiment un moyen sécur pour savoir si, à côté de nous, des personnes pourraient avoir le virus. Donc cette liberté, c'est pas, on demande simplement à certaines personnes de montrer un bout de papier. Mmh. Et ben, si c'est ça, avoir une perte de liberté pour aller au restaurant, et ben, les gens restent chez eux. Et pour la vaccination, certes, on a bloqué pendant un an, je fais de la recherche également, ouais. Tous les chercheurs se sont fixés un seul objectif, tout s'est arrêté pour le vaccin. Donc on a fait ce qu'on normalement on fait en 10 ans, en un an, parce que tout le monde s'est mobilisé. Donc respectons également tous celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour que les personnes ne meurent pas ou ne soient pas hospitalisées. Merci. Avec des séquelles graves. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Philippe de nous avoir contacté au 39-21. On marque une pause et puis bien sûr on va vous écouter dans un instant. 32-21, on va donner la parole à Alexandre Malafaï qui piaffe d'impatience. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
18h47, la loi sur le pass sanitaire adoptée au forceps, entre négociations et interrogations. On en parle ce soir avec nos grandes voix. Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia, et Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. On entendait juste avant de marquer cette pause Jean-Philippe de Lille, qui disait finalement le pass sanitaire, ça permet une chose, ça permet de partir en vacances, ça permet la liberté.
C'est que si vous proposez aux gens la prison ou la liberté conditionnelle, c'est sûr que... Non, mais la prison du confinement, bien sûr, oui, qui était comme voilà, et puis la liberté conditionnelle. Les gens signent pour la liberté conditionnelle. Mais ce n'est pas parce qu'on achète cette liberté conditionnelle qui est peut-être une liberté à 50% par rapport à ce qu'on avait
avant. Et c'est ce qu'on disait Alexandre vendredi soir, finalement. C'est quoi la solution? L'autre solution, il n'y a pas.
Alors, si, je pense que si. Je pense qu'en tout cas, comme on est en démocratie, un peu d'esprit critique ne fait pas nuire. Mais comme globalement, sûr. Il y a une espèce de message très massif qui dit à peu près la même chose, mais totalement
libre et on vous écoute, bien évidemment.
Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, ça mérite de réfléchir et d'interroger le sujet, au-delà du fait que, bien sûr, qu'il faut faire quelque chose, que, bien sûr, que la vaccination, et de préférence, si elle était fait tout son cycle de validation, ce serait encore mieux. Mais en tout cas, pour les personnes les plus fragiles, les personnes en difficulté, les personnes qui sont sensibles, voilà, les personnes âgées, là, ça me paraît effectivement être une bonne réponse. Je le redis, je pense qu'il y a des études qui montrent qu'on peut soigner davantage qu'on ne le fait aujourd'hui. Je pense que ça, c'est un point important. En effet, les gestes barrières, en effet, les mesures de distanciation lorsque c'est nécessaire. Voilà, mais du ciblage, du chirurgical et bien sûr, toujours la prévention. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Ce que je veux dire, c'est que c'est cet équilibre qu'il faut trouver pour qu'on évite de passer en permanence d'un extrême à l'autre. Un extrême, c'était le mois de juin, on allait annoncer que tout allait bien. Tout d'un coup, au mois de juillet, on est en mode catastrophiste avec de nouveau des prévisions apocalyptiques. Un automne dont on ne sait pas trop de quoi il sera fait. Voilà, avec la menace malgré tout que finalement le virus passe. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur le porte-avions anglais. Sur le porte-avions anglais, 100% des marins anglais sont vaccinés. Ça, ce n'est pas du fake news. 100%, c'est totalement officiel et trouvable. 100% sont vaccinés. Et bien, malgré tout, le virus circule. Et le virus circule plus au sein du porte-avions qu'il ne circule dans la population générale anglaise.
Mais c'est ce qu'on a dit, ça permet au moins de ce qu'on a vécu dans les hôpitaux, c'est-à-dire des Covid longs, ça veut dire des gens...
Oui, mais vous avez les mêmes chiffres en Angleterre, vous montrent que maintenant, vous avez des gens qui l'attrapent et qui sont doublement vaccinés, et qui sont bien sûr souvent des personnes âgées. Voilà, la parade n'est pas absolue. C'est pour ça qu'il faut se méfier d'un message où il n'y aurait qu'une seule voix, et on peut continuer à challenger la réflexion sur comment on fait, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé la bonne façon de faire.
Raphaël Steinville.
Oui, moi j'ai trouvé l'intervention de notre auditeur intéressante. C'est-à-dire que c'est un argument qu'on entend beaucoup qui est de dire que dès lors que l'on est vacciné, on veut pouvoir profiter des terrasses et des restaurants sans prendre le risque d'être à côté de quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir le virus. Mais c'est quelque chose qui est que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que dès lors que le vaccin protège ces gens-là, pourquoi auraient-ils peur de voisiner des gens qui ne seraient pas vaccinés. Et puis, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une sorte un peu d'escroquerie, c'est-à-dire que dès lors qu'on a des symptômes, personne, quand on est malade, même quand on a un gros rhume, une angine, on se précipite pas dans les restaurants ou dans les terrasses pour profiter de ces lieux de vie et de convivialité. Donc, en fait, dans la réalité, Le cas de figure où les gens auraient un risque d'être contaminés est faible, et d'autant plus faible qu'en plus, ils sont déjà vaccinés. Ou sinon, ça remet totalement en cause la croyance que l'on porte et le crédit que l'on porte dans l'efficacité du virus.
La parole est libre et on vous écoute, Sophie. Bonsoir. 3921, vous nous avez contacté de la région parisienne et vous travaillez dans l'éducation nationale.
Tout à fait, oui. Alors moi, je suis plutôt pour le pass sanitaire. Ouais. Pour moi, le pass sanitaire, c'est pas une obligation de vaccination, puisque le pass sanitaire, ça peut être aussi un test PCR, un test antigénique. C'est pas que la vaccination. Ensuite, la vaccination ne veut pas dire qu'on n'a pas le virus. Moi, si de toutes les émissions que j'écoute ou que je regarde, si j'ai bien compris, la vaccination empêche les formes graves.
Les formes graves, tout à fait.
Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir le virus, mais ça l'atténue quand même un tout petit peu. Et ça, je pense qu'à long terme, le but est aussi d'éviter les nouveaux variants. Et on sait que les virus de type coronavirus engendrent des mutations qui peuvent être beaucoup plus graves, comme le variant Delta qui a une contamination beaucoup plus rapide. Donc moi, je trouve que le pass sanitaire, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils ne veulent pas se faire vacciner, on ne les oblige pas. Mais après, s'ils préfèrent aller se faire prendre des cotons-tiges dans le nez, où ce n'est pas très agréable pour faire ça, voilà. Moi, je travaille dans l'éducation nationale, j'ai deux enfants, une qui est en études supérieures, qui s'est fait vacciner dès qu'elle a pu. J'en ai une autre qui a 16 ans, que j'ai fait vacciner, mais avec son accord, dès qu'elle a pu aussi, pour se protéger les autres, leurs grands-parents. Elles n'avaient pas vu leurs grands-parents pendant 10 mois. Bon, elles sont vaccinées, elles ont pu revoir leurs grands-parents qui sont des personnes fragiles, quoi. Et puis elles aspirent à retrouver une vie normale avec les copines, le lycée, les études sup normalement. Donc voilà,
merci.
Ceux qui veulent pas, elles veulent pas.
Merci. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir contacté au 3921. Alexandre Malafaille, on en est à 40 millions de personnes vaccinées, 33 millions pour les deux doses. L'objectif maintenant, c'est 50 millions fin août. Emmanuel Macron parle d'immunité collective d'ici décembre. Vous le disiez tout à l'heure, finalement, en effet, on a une rentrée dans le doute, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, l'immunité collective, c'est encore assez tardif, quoi.
L'immunité collective, elle sera, il faut l'espérer, atteinte à la fois par la vaccination pour partie, et puis parce que beaucoup de gens l'ont eu, cette fichue maladie, et qu'ils ont une résistance naturelle qui est acquise. Ça, c'était également scientifiquement démontré. Maintenant, la question, c'est que va faire ce virus, ce vaccin dans la durée? Est-ce qu'il sera capable de vraiment protéger? on n'a pas encore assez de recul par rapport au variant Delta. Un certain nombre d'études laisse montrer que voilà, il est peut-être moins efficace que ce qu'on avait annoncé des 95%. Voilà, mais ça, à la limite, ce n'est pas très grave. Maintenant, là, il faut qu'on fasse attention parce que le pass sanitaire, il y a un très bon papier du docteur Kierzek aujourd'hui dans le Figaro, oui. Qui met en avant, qui met en garde, attention, oui. Le pass sanitaire pourrait avoir comme conséquence un relâchement des mesures barrières. On est vacciné, maintenant c'est peinard, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ce qui est peut-être pas forcément...
Il y a eu sans doute cette erreur de fait, finalement.
En tout cas, il faut qu'on fasse attention.
Au mois de mai-juin.
Le risque, mais après, c'est vrai qu'on va avoir à un moment donné un problème de saturation. Ouais. Et on est vacciné, et on ouais. porte le masque, ouais. et on a les gestes barrières, et on fait quoi ? Donc c'est là où on interroge encore et encore la question. Et puis, il faut quand même se poser la question, c'est l'enjeu du glaive et du bouclier en permanence. Hein. J'entendais ce que disait votre auditrice. Je crois que malheureusement, elle n'a pas raison sur le fait que grâce au vaccin, on va éviter les variants ou les mutants. C'est plutôt le contraire qui se produit. C'est-à-dire que les virus, et là encore, c'est rappelé par le docteur Kierzek aujourd'hui,
se régénère et
cherche à survivre
en permanence.
Voilà, exactement. Donc plus vous mettez de barrières,
mais elle disait aussi ça évite les formes longues, les formes
graves. Dans la version actuelle de ce variant Delta, qui pour le coup n'a pas l'air beaucoup très dangereux, si on le compare par rapport à la version originale du premier virus de Wuhan, là pour le coup on est sur une maladie qui est moins dangereuse. Mais tant mieux, réjouissons-nous.
Et d'ailleurs, Raphaël les chiffres qui sont mis en avant par le gouvernement participent d'une certaine manière d'une stratégie de la peur, c'est-à-dire que lorsque l'on met en avant le nombre de cas plutôt que le nombre de personnes hospitalisées ou en réanimation, c'est bien parce que le nombre de cas impressionne suffisamment pour continuer à faire peur et à inciter les gens à se faire vacciner. Après, il y a une autre question. Vous évoquiez le fait que Emmanuel Macron avait dit que d'ici la fin du mois d'août, il voulait que 50 millions de personnes soient vaccinées. Il y a une question quand même qui reste en suspens, c'est celle de la logistique, de l'acheminement
des doses, etc., des doses, sur les lieux de vacances, par exemple.
Et aujourd'hui, on voit que dans un certain nombre de lieux, de départements, ça coince et que y a des retards qui sont pris dans le calendrier tel que le gouvernement l'a conçu.
Juste pour terminer, vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la dernière version du texte, hein, il est laissé au préfet la possibilité de prendre des restrictions supplémentaires, ce qu'ils font déjà. Est-ce que ça ne brouille pas finalement le message pour les vacciner ? On l'a vu ce soir en Haute-Corse, Alexandre Malafaille.
Ce qui brouille toujours le message, c'est la répétition de décisions qui sont absurdes. Voilà. À un moment donné, qu'on décide de protéger les gens dans des lieux clos, dans des lieux confinés, parce qu'on pense que là, en effet, ça peut se diffuser, et que même quand les gens sont vaccinés, ça peut se diffuser, donc ça participe d'un risque de propagation de l'épidémie, avec en plus une partie de la population qui n'est pas encore vaccinée. Tout ça, on peut l'entendre. Mais très sincèrement, dans les Alpes-Maritimes ou en Corse, ou dans le Roussillon, etc., réimposer le port du masque en extérieur, ça remet encore une pièce dans la machine de l'absurdité dans laquelle on vit depuis un an et demi, et que tant qu'on n'aura pas trouvé là encore un équilibre avec des mesures relativement intelligente et proportionnée, bah on aura toujours une partie de la population qui se dressera contre ces mesures en disant ça ne va pas.
Pour terminer, Raphaël Steinville.
Oui, vous évoquiez la Haute-Corse et je crois que c'était sur votre site que vous notiez que la pression continuait de baisser sur les hôpitaux, notamment, notamment en Corse. Ouais. Donc c'est là où, encore une fois, la question des chiffres que l'on met en avant doit être analysée. C'est-à-dire que si on parle du nombre de cas du nombre de contaminations, bien évidemment que c'est impressionnant et on peut parler de clusters. Si on parle de décès, si on parle de personnes en réanimation, on est loin de cette ambiance catastrophiste qu'on pourrait imaginer en évoquant seulement le nombre de cas.
Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles et Alexandre Malafaille du think tank Sinopia ce soir. Vos grandes voix, merci à vous deux, bonne soirée. Merci
beaucoup.